Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
Ben oui, 5h20, on jase avec Alex Leblond, planificateur financier. Monsieur Leblond, bonjour.
Salut.
Comment est-ce qu'il va?
Ça roule,
ça. Oui, ça va. Toujours des grosses journées quand on reçoit le maire en studio. Pour les gens qui l'ont manqué, c'est déjà disponible sur le blvd.fm et sur l'application Boulevard.
C'est sur la chaîne YouTube également, si jamais vous voulez l'image, mais je dois vous dire que pour cette vidéo-là, par exemple, vous allez avoir le son des caméras.
Petit problème technique,
clair. Ouais, oh. Des problèmes techniques. Ceci dit, l'entrevue est là au complet.
OK. Puis là, ceux qui vont se brancher sur le Twitch, ils vont-tu avoir une qualité sonore étincelante? Là, parce que quand on parle de finances, il faut comprendre ce que les gens disent, là,
oui.
Parce qu'en ça, on ne comprend rien.
Oui, moi,
ce que je comprends, c'est que le directeur technique fait pas sa job.
Bien, c'est une façon de le voir. Je sais que tu le connais bien.
Tu cherches à perdre un ami, Alex?
Peut-être poliment le rappeler à l'ordre là, quand tu vas le croiser tantôt, puis vous allez dire des niaiseries que vous ne pouvez pas dire en nombre.
Oui.
tu as lu un texte en fin de semaine qui remet un peu en question tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut percevoir sur les jeunes qui ont ça rough présentement dans leur début de vie.
Ouais. Puis c'est intéressant, okay? C'est une chronique qui a été publiée en fin de semaine dans la presse par Marie-Ève Fournier, qui prend des récents chiffres de l'Institut de la statistique du Québec qui vont comme un peu à l'encontre de ce qu'on entend dans le discours populaire là, sous l'effet que okay, ben, les jeunes ont une situation financière particulièrement plus difficile que par le passé, précaire, beaucoup moins facile pour eux que pour les générations précédentes.
Difficile d'avoir une maison, d'accéder à la propriété.
Ouais.
On compare avec quelle génération?
Ben, en fait, on recule, là, mettons, on prend, disons, les 35 ans et moins, puis on regarde, OK, c'était quoi le portrait des 35 ans et moins en 99, en 2000, différentes...
J'ai tellement hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai l'impression que des jeunes actuellement, quand j'avais cet âge-là, je me payais pas de voyage de même. Je me payais pas un char de ce type-là. Je me payais pas des appartements comme ceux-là. J'étais en colocation. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre. Les priorités ou encore ce qui est souhaité, là, t'sais, on aspire à quoi? Je pense que, disons que la réalité puis la vraie vie, c'est peut-être pas la même affaire, là.
Fondamentalement, Alex, la situation financière des jeunes, ça s'est amélioré ou ça s'est détérioré sur 20-25 ans? Là?
Ce que les données de l'Institut de la statistique du Québec nous disent, puis ce qui a été répertorié dans l'article, c'est que ce qu'on entend publiquement, puis ce que les chiffres disent, ça connecte pas, là.
Okay.
Il y a une grosse dichotomie entre les deux. La valeur nette des ménages de 35 ans et moins, là. Fait que ce qu'ils valent, là, tout ce qu'ils ont, moins ce qu'ils doivent, là. Fait que la valeur nette a triplé depuis 2005. Fait que c'était 80 207 en moyenne en 2005. Puis là, c'est rendu 215
220. C'est ça en dollars absolus, ça?
Oui, l'inflation compte pas là-dedans.
Okay.
Parce qu'on ramène tout ça en dollars de 2023.
Okay.
Fait que justement, tout ce qui est coût de la vie, c'est pas inclus là-dedans. Puis c'est fou, là, parce que quand on demande aux jeunes, dans des sondages, presque la totalité d'entre eux disent que leur propre situation ou la situation de leur génération s'est détériorée.
Mm-hmm.
Par contre, quand on regarde leurs chiffres, on se rend compte que ça dit exactement le contraire. Fait que c'est ça qui est intéressant là-dedans. Puis quand tu regardes, OK, chez les 35 ans et moins, tu vois que... Il y a comme, OK, c'est quoi le pourcentage des gens de 35 ans au moins qui ont, mettons, un pré-étudiant? Bien, tu vois, en 99, là, ou du moins en 2005 plutôt, c'était essentiellement 1 sur 3 qui avait un pré-étudiant. C'est rendu plus bas que ça, c'est rendu 24
hein?
Au niveau de la résidence principale, bien, en 2005, c'était 1 jeune sur 4 qui avait une maison, là, qui était propriétaire, 25. Là, c'est rendu 44.
Hey, c'est surprenant,
c'est
ça.
C'est gigantesque comme chiffre.
C'est rendu presque 1 sur 2. Ils ont plus de REER, plus de comptes CELI.
Moins de dettes.
Moins de dettes
de
consommation.
Oui, mais prenez-nous leur argent. C'est-tu que les salaires ont explosé? Je comprends pas.
Bien, il y a ça, c'est une partie. Tu sais, autant on a parlé. Puis ça, c'est toujours la même affaire. Ce qu'on entend publiquement, puisque les données officielles démontrent, c'est constamment exactement le contraire.
Mais comment t'expliques ça? C'est une mauvaise perception que les jeunes se font dans leur tête de dire « Bien, vous autres, vous avez tout eu, vous avez été gâtés, vous n'avez pas eu l'inflation, on a plus d'incertitudes » ou ça part de d'autres choses, ou il y a peut-être des zones d'ombre aussi dans les données là, qu'on voit peut-être pas?
Ouais, il y a quelque chose là-dedans là, qui est... Tu sais, les statistiques, là, ça nous dit, mettons, OK, c'est quoi le pourcentage de jeunes qui ont des dettes de consommation? Fait que là, on voit, OK, ben en 2005, c'était 72. Là, c'est rendu plus 68. OK, il y a moins de jeunes qui ont de dettes de consommation. Par contre, pis ça, c'est vrai sur quasiment toutes les stats d'endettement, là, oui, il y en a moins qui en ont. mais ceux qui en ont vraiment plus.
Okay. Okay.
Les marges de crédit sont plus grosses. Les soldes de ces cartes de crédit sont plus gros.
Ceux qui en arrachent plus.
C'est la minorité qui crie plus fort, dans le fond?
Exactement. Puis des fois, on parle l'espèce de principe d'économie en K. Là. Il y a comme, tu sais, pense à la lettre K, là. Il y a une partie qui part vers un bord, puis l'autre s'en va de l'autre bord. Là.
Mm-hmm.
Il y a comme cette réalité-là qu'on voit dans la société, mais qu'on voit particulièrement chez les jeunes. C'est-à-dire que ceux pour qui ça va bien, ça va vraiment bien. Puis ceux pour qui ça va mal, ça va vraiment mal. Fait que quand tu creuses dans les chiffres, oui, le portrait est plus rose que ce dont on entend parler peut-être au quotidien dans notre entourage puis ce qu'on voit dans les médias traditionnellement, mais il y a comme ces deux extrêmes-là qui se côtoient présentement.
Il y avait une réalité dans les chiffres quand tu regroupes tout le monde au Canada qui disait que l'écart entre les riches et les pauvres s'était agrandi, mais que le nombre de pauvres s'était agrandi aussi,
augmenté,
si
ouais.
On regarde toutes les générations. C'est peut-être ça qui nous poussait à croire que tu avais plus de jeunes qui étaient dans le trouble qu'avant aussi. Là.
Oui, puis on s'entend, c'est toujours la même chose. Là. Vous savez c'est quoi? Là? S'il y a un avion qui atterrit tantôt à Jean-Lesage, c'est pas une nouvelle. Là. Il y en a 50 des avions qui vont atterrir là. Là.
Ouais.
S'il y en a un qui se crache, c'est une pas pire nouvelle.
Exact.
Là, soudainement... « Hey, c'est un Boeing, ça? C'est-tu safe, Boeing? Ah, mm-hmm. Puis l'aviation, c'est-tu safe? »
La spirale qui vient avec. Là.
C'est une anomalie statistique. Mm-hmm. Mais des fois, fait, le point, c'est que des mauvaises nouvelles d'un point de vue économique, on va toujours en parler plus. Fait que si tu regardes les nouvelles économiques, ben, ce que tu vois souvent, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Le monde s'endette, le monde ne va pas bien, le monde ne sont pas capables de chercher des maisons, les prix augmentent. C'est une réalité qui existe, oui, mais qui n'est pas nécessairement représentative de la situation du Québécois moyen ou du Canadien moyen.
Dans tes chiffres, Alex, est-ce qu'on le voit le game changer entre des jeunes qui vont bien puis des jeunes qui vont pas?
L'étude, tu sais, l'Institut de la statistique, souvent, ils vont pas émettre d'hypothèses. Eux autres vont te donner à dope, là, puis arrange-toi avec ça. Là.
Interprète,
ouais. Ouais, exactement. Moi, dans ma pratique, là, surtout chez les jeunes, là, je vois comme deux affaires, OK? Premièrement, on parlait de dette, là. Ceux qui ont eu un régime épargne-études, okay? Que leurs parents, quand ils étaient jeunes, mettaient de l'argent là-dedans, mm-hmm. qui sont fait payer essentiellement à leur cégep, qui sont fait payer essentiellement à leur université, eux autres partent dans la vie avec un avantage majeur.
Peux-tu faire une interprétation?
Vas-y.
Si tes parents ont mis un REE quand tu étais jeune, probablement que tu as eu une éducation financière plus importante que des parents qui n'étaient pas sensibilisés à ça?
C'est très possible.
Sur l'épargne, puis sur l'endettement, l'éviter le plus possible. Puis j'ai l'impression que ça vient tout ensemble. Tu as la chance que tes parents paient tes études, tu n'as pas de dette, là, arrange-toi pour que ça continue de même.
Ben oui, puis à seconde, tu sais, mettons que tu regardes les stats, là, le prêt étudiant moyen, c'est 12 000 $ à peu près. Mais tu as seulement 24 % des jeunes qui en ont un. Fait que ça veut dire que ceux qui en ont un, ils en ont un pas pire, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent baisser la moyenne. Là. Fait que, tu sais, le jeune qui arrive, il finit ses études à, whatever, là, 22 ans, qui, lui, a de l'argent disponible, bien, s'il y a un prêt étudiant, bien, il y a une partie de l'argent disponible qu'il a qui va aller mettre là-dedans. Là, mm-hmm. Fait que cet argent-là, c'est pas une mise de fonds pour une maison, c'est pas un projet, c'est pas de l'épargne retraite. L'argent qu'on redonne à RBC et à Desjardins, là, on fait rien avec cet argent-là. Là. Alors que le jeune qui en a pas, ben lui, la première pièce disponible qu'il a,
il peut
aller mettre ailleurs. Ouais. Fait que ça a l'air de rien, là, mais c'est un edge significatif. L'autre chose, c'est que on regarde les chiffres de propriété. Là. Puis oui, hey, il y a 25 % des jeunes qui avaient une maison en 2005, alors que là, c'est rendu 44 %. Il y a une affaire dont on ne parle pas souvent, mais qui est maintenant, il y a beaucoup plus d'aide pour l'achat d'une première propriété que c'était le cas à l'époque.
Ça te donne des accès que tu n'aurais pas eu auparavant.
Au Canada, maintenant, là, c'est grosso modo un jeune sur trois qui reçoit de l'aide de ses parents pour l'achat d'une première propriété. Fait que c'est 31 % exactement, là, pour être têteux sur le chiffre. Savez-vous, c'est quoi le montant moyen de l'aide qui est donnée?
C'est combien?
C'est 115 000
$.
Fait qu'on s'entend. Le jeune qui reçoit 115 000 $ de ses parents pour sa
ça
maison.
Ça part bien en vie.
Mon guess, c'est que lui, il s'est fait payer ses études aussi. Fait que, tu sais, lui, il se ramasse avec deux passes
d'où
la palette plutôt qu'une. Fait que l'écart vient se creuser, entre autres, là. Le 115 000 $, là, il faut le mettre en contexte, par contre, là, parce que c'est une statistique qui est canadienne. Fait qu'on a déjà parlé ensemble, là. À seconde où on parle d'immobilier, les stats canadiennes, il faut comme y faire attention un peu, là, parce qu'il y a le marché de Toronto, le marché de Vancouver, puis dans une moindre mesure, le marché de Montréal que... C'est pas Saint-Marc-de-Carrière. Saint-Marc-de-Carrière, à 115 000, tu peux acheter le quartier au complet.
Un point intéressant, Alex, que tu voulais partager avec nous autres, c'est que Il y a une notion qui se perd, qui fait peut-être en sorte que les jeunes s'avantagent. C'est que des nonos comme moi qui restent fidèles à un employeur pendant 24 ans, mettons, là, il y en a de moins en moins.
Oui, exactement. Puis ça, justement, quand je suis allé creuser, puis ça, c'est pas l'institut de la statistique qui avance ça, mais je suis allé creuser un petit peu sur c'est quoi qui explique l'écart, pourquoi les jeunes, puis parce que tu le vois aussi là, dans l'augmentation du salaire. Le salaire des jeunes augmente plus rapidement que celui des vieux. Fait qu'il accumule plus de richesses que... Ou du moins, il accumule la richesse quand on compare à ce que leurs parents faisaient.
Oh oui.
Il accumule la richesse plus rapidement. Puis un des principaux éléments derrière ça, c'est justement le fait que cette espèce de notion-là que l'amélioration de ses conditions passe par la loyauté envers son employeur. Ben,
je travaille 20 ans à même place, je vais monter les échelons, je vais faire plus de salaire que si je recommence à zéro ailleurs.
Ouais, les jeunes ont sacré un coup de batte de baseball dans cette notion-là. Puis moi, je le vois dans ma clientèle des fois. Là. J'en ai un présentement, un cas où la personne est presque à la retraite. Elle se fait traiter vraiment comme de la chenoute par son employeur. Là. Ça fait 30 ans qu'elle est là, ses conditions sont vraiment bof. Tu sais, il n'y a aucune raison logique de rester là. Mais pour elle, elle a grandi avec cette notion-là.
Elle ne se voit pas ailleurs.
Ouais. L'employeur lui a donné une opportunité, elle est redevable, puis elle est prête à accepter n'importe quoi pour rester là. Alors que les jeunes, mettons que la corde est moins longue. Là. Puis, ultimement, les statistiques nous démontrent que c'est eux qui ont raison.
Bien, le marché de l'emploi a tellement changé sur 20 ans. Tu sais, il y a 20 ans, tu avais une job, tu étais content, tu la gardais.
C'est un privilège d'avoir
un
une job.
C'est un privilège d'avoir un emploi.
Moi, j'ai grandi là-dedans au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
quand
toi aussi.
Quand j'ai fini mon bac en communication, là, le nombre de personnes qui ont été capables de se placer en communication rapidement était minuscule. Maintenant, le marché de l'emploi fait que les employés ont le gros bout du bâton versus les employeurs. Fait qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le marché.
Si longtemps,
ça fait 5-10 ans peut-être.
Ben, à peine, parce que moi, mettons, il y a 15 ans, quand j'ai été porter mes premiers CV, là, j'avais hâte que le boss me rappelle au téléphone, puis je relançais, puis je retournais serré à main, puis j'avais mes petits papiers, mes CV en papier.
Alors que si Audrey Pinchot avait 15 ans aujourd'hui, là, quoi que c'est moins vrai maintenant dans la région de Québec, là, c'est comme, moi, je veux pas travailler les vendredis, samedi soir.
Ouais,
puis,
je veux un salaire de tel dollar, puis on n'est pas à une place.
Hey, je m'étais fait refuser au sushi shop, moi.
Arrête.
Pour vrai?
Je voulais rien savoir.
Je me suis fait renvoyer de l'aubainerie.
Oh, mais tu parlais trop.
Les gros coming out. Hein?
Renvoyer.
C'était tellement rough, Alex.
C'est quoi t'as fait?
Je parlais trop aux clients.
Ça peut-tu être plus Audrey que ça?
Je tenais un sacré bon service, mais moi, ils voulaient de moi que je plie le linge.
Parce qu'il faut que tu vendes aussi.
Ben, je comprends.
À l'époque, si on monte aux années 90 au Saguenay, là, vous savez c'est quoi actuellement? McDo embauche, puis c'est des gros salaires pratiquement pour le type d'expérience que tu as à l'origine. Nous autres, dans le temps, là, c'était assez choyé pour que tes parents aient un contact, puis que tu rentrais, tu étais la royauté de l'école secondaire. Là. Ouais. Tellement que c'était
bon
sur le CV,
rare, là.
Ouais, ben Alex, tu viens de sacrer une coupe de coups de pied sur bien des perceptions qu'on a puis des préjugés qu'on entretient nous autres aussi là, en jasant d'actualité. Là.
Ben, de plus en plus, on voit ça. Hein. Il y a autant sur les marchés boursiers que sur toutes les données d'emploi, les données relatives à la richesse au sens large. Ce qu'on entend comme dans les chaumières, ce que les statistiques officielles nous démontrent, c'est foncièrement différent. Enfin, je ne sais pas pourquoi exactement.
Je trouve ça fascinant, par exemple.
Ben, moi aussi, parce qu'il y a comme un gros écart. Puis justement, l'article de la presse en fin de semaine, il s'est comme promené un petit peu là, sur les Reddit de ce monde. Puis tout le monde était comme « c'est de la merde! » C'est pas vrai. Parce que eux, leur situation, c'est pas ça. Ou ce qu'ils entendent...
Quand c'est pas ta réalité, ça n'existe pas. C'est de même qu'on a commencé le show aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, ouais.
Ouais, le fameux « il n'y a pas de famine en Afrique, j'ai déjeuné un matin. »
So, il n'y a pas d'explosion à Puerto Vallarta parce que moi, dans mon quartier, il n'y en a pas. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est spécial, puis ça va partout, tu sais, l'achat de propriété, je veux dire, ça fait un an qu'on fait rien que dire ça, là, que c'est plus, que c'est, ça n'a jamais été aussi peu accessible pour les jeunes générations. Puis...
Ben moi, en finissant, là, par rapport justement au clash des générations, là, parce que les X, on va promener les boomers, puis les Z, on va promener les X.
Les pirates sont devenus des boomers, pire que les boomers.
Exact. Quand on regarde les chiffres précisément, là, l'achat d'une maison, là, c'est extrêmement difficile pour les jeunes aujourd'hui. Il y a plus de jeunes qui réussissent à le faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. C'est pas ça la conclusion.
Il y a plus d'aide.
C'est extrêmement difficile d'acheter une maison aujourd'hui en 2026 pour un jeune. C'était extrêmement difficile pour leurs parents d'acheter une maison. et c'était extrêmement difficile pour leurs grands-parents d'acheter une maison. On ne peut pas regarder le prix d'un bungalow à Charlebourg en 77 avec nos yeux de 2026. C'est un non-sens économique. Il y avait 11 000 piastres qui rentraient dans la maison. Là. Il y avait
un salaire souvent. Puis...
avec des taux d'intérêt de 18 %. Ouais. Fait que quand on regarde, la donnée importante, c'est vraiment, OK, c'est quoi le pourcentage de l'argent disponible qui est dédié à l'hypothèque? Puis on l'a déjà fait, cet exercice-là.
Ouais.
Ce montant-là est à peu près constant au fur et à mesure qu'on avance dans les générations. Fait que c'est tough aujourd'hui, c'était tough hier, ça va être tough demain. Fait qu'il faut juste comme arrêter d'envoyer promener les générations précédentes en disant qu'ils l'ont eu facile. C'est juste pas vrai, c'est tough pour tout le monde. Tout le monde a de la misère, fait que encourageons-nous ensemble.
Tout le monde est malheureux tout le temps. Merci, Alex Leblon.
Un beau message d'espoir.
Alex Leblon, planificateur financier, 17h36. Gravel. Gravel. Dans le retour.